Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux pour continuer la lecture cursive de Saint Jean. Dans l'émission précédente, souvenez-vous, le Père José nous a détaillé les trois grandes étapes, les trois grandes parties de ce discours après la scène. Nous allons entrer dans le détail de ce texte, mais avant, le Père José voudrait signaler tout de même à quel point ce texte, cet ensemble de textes, cet ensemble de chapitres, je rappelle que cela va du chapitre 13, verset 31, à la fin du chapitre 17. Il soulignait à quel point ces textes ont un aspect théâtral et musical. Qu'entendez-vous par là, Père José ?
Mais le théâtral, vous l'avez souligné tout à l'heure en montrant l'art, la griffe de Saint Jean, quand il évoque des contrastes, comme par exemple la trahison de Judas au départ du discours, la trahison de Judas, dont on ne devine pas l'horreur, puisqu'on croit qu'il va s'occuper des pauvres, et puis Judas part pour trahir Jésus, et lorsqu'il consomme sa trahison par son départ, Saint Jean dit simplement « il faisait nuit ». Ce contraste entre le ténèbre qui semble enfermer Jésus et la gloire paradoxale qui est en train de jaillir de cette dernière étape de sa vie, c'est Jésus, après le départ de Judas, sur le départ de Judas, ose dire « maintenant le Fils de l'homme est glorifié ». Et si Dieu le glorifie, il le glorifiera encore. Donc, le thème de la gloire triomphante s'oppose à celui des ténèbres menaçantes et enveloppantes.
Ça, c'est le grand génie de l'écrivain, ici. Oui. Il y a quelque chose de théâtral, effectivement. Et vous disiez aussi musical.
Eh bien, musical, ici, c'est dans la composition qui peut nous dérouter. Il y a dans cette composition un style, le style d'une mélodie qui s'annonce, se déploie, revient sur elle-même, mélange des thèmes, les oppose, ce qu'on appelle les contrepoints. C'est un rythme musical par la souplesse des enchaînements. Les thèmes s'annoncent discrètement, puis semblent se contredire, puis dialoguent entre eux, et finalement se marient. Dans son récit, le rédacteur use du refrain. Le refrain vient régulièrement dans tout ce long discours. C'est le refrain amoureux. Je n'ai qu'un commandement nouveau à vous donner, c'est aimez-vous les uns les autres. Ça vient rythmer la parole.
C'est un peu comme dans une symphonie où effectivement il y a souvent deux ou trois thèmes qui effectivement s'annoncent, se développent, se contredisent éventuellement, se superposent aussi. Et puis il y a, comme vous dites, des refrains. Et ici, vous avez signalé que dans ce discours, le mot « amour » venait 30 fois. Il y a également d'autres mots, comme le mot « demeurer » sur lequel nous allons certainement nous arrêter tout à l'heure.
Oui. Je voulais aussi signaler que dans ce discours, qui a l'air de piétiner parfois, mais qui peut nous impatienter, il y a une progression subtile et il faut la repérer. Donc, dans le premier temps, la succession des questions des disciples qui cernent Jésus, chaque question donne l'occasion à Jésus d'avancer d'un pas ou de monter d'une marche dans la vérité qu'il essaye de libérer. Le discours est parti sur la question angoissée « Tu t'en vas, mais où vas-tu ?» Et dans les questions qui sont posées et les réponses que Jésus leur apporte, progressivement, ce départ est retourné jusqu'à devenir positif. Où vas-tu ? Où je vais ? Vous ne pouvez pas encore venir. Pourquoi ? Mais en fait, je vais vous préparer une place.
C'est pour ça que je vous propose maintenant, Père José, oui. de lire ce passage pour que nous puissions vraiment repérer cette progression. Je lis à partir du verset 31 du chapitre 13. Et effectivement, nous voyons ici ces apôtres, ces disciples qui sont complètement affolés et qui, comme vous l'avez dit, cernent Jésus par toute une série de questions. Nous allons nous concentrer sur les trois premières questions, les questions de Simon-Pierre, de Thomas et puis de Philippe, à partir du verset 31 du chapitre 13. Dès que Judas fut sorti, Jésus dit « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Dieu le glorifiera en lui-même et c'est bientôt qu'il le glorifiera. Mes petits-enfants, je ne suis plus avec vous que pour peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir. À vous aussi, maintenant, je le dis. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui répondit Pierre, pourquoi ne puis-je te suivre tout de suite ? Je me dessaisirai de ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Te dessaisir de ta vie pour moi ? En vérité, je te le dis, trois fois tu m'auras renié avant qu'un coq ne se mette à chanter. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Je suis avec vous depuis si longtemps et cependant, Philippe, tu ne m'as pas reconnu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si vous ne croyez pas ma parole, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, Père José, nous allons nous arrêter là parce que le texte est déjà bien riche. Effectivement, ce texte est rythmé par ces questions lancinantes de disciples littéralement affolés.
Les questions, et chaque question permet à Jésus de faire un petit pas en avant ou de monter d'un degré. Et donc, il y a « Où vas-tu ?» Et Jésus convertit progressivement le fait brutal du départ. Il dit « Mais je vais vous préparer une place. En fait, je retourne là où je suis et vous préparez une place pour que vous veniez avec moi. Et là où je vais, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et puis, alors, Jésus continue à traduire positivement le fait brutal du départ en disant « Mais, en fait, je retourne à mon Père, je vais au Père. Il faut que je vous quitte pour aller vers le Père et vous frayer le chemin. C'est cela seulement qui me permettra de revenir à vous sous une forme nouvelle, la nouvelle présence, celle de l'Esprit. »
Et quand on revient à ce verset 3 du chapitre 14, « Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. » Il y a de la tendresse là-dedans, Père José.
Ah, mais c'est un discours à la fois cruel et tendre. Je dis cruel. Parfois, les réponses de Jésus sont un peu piégeantes. Quand il dit à Thomas, « Mais enfin, tu connais le Père ? Qui m'a vu a vu le Père ?» Donc, Jésus piège un peu ses disciples tout en les menant un peu plus loin dans la vérité. Et alors, je crois que tout ce cheminement est encore souligné par le fait quand il dit « Je reviendrai, je m'en vais donc je reviens, mais il vous est bon que je m'en aille, car si je ne m'en allais pas, l'Esprit ne pourrait venir. »
Jésus montre que c'est nécessaire.
Que c'est nécessaire.
Oui. Et ce qui est intéressant aussi, Père José, c'est la grande idée qui revient à la fin de ma lecture, là. Au contraire, c'est le Père qui, demeurant en moi, accomplit ses propres œuvres. Il y a cet accomplissement, mais il y a aussi ce grand thème de demeurer en moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a demeurer, ce n'est pas une présence fusionnelle, ce n'est pas... Qu'est-ce que c'est que ce verbe demeurer ?
Demeurer, c'est... être en communion, même dans la différence. Hein. Donc, et c'est à ce type de demeure que Jésus nous invite. Nous aussi, nous sommes invités par lui à entrer dans l'unité de cette communion. Ce sera le chapitre 17, ça. On y reviendra plus tard.
Donc finalement, ce verbe-là prépare, en quelque sorte, comme un thème musical. Ah oui. Il y a déjà ce thème qui est...
L'unité.
L'unité.
Qu'il soit un comme nous sommes un. Nous sommes invités à entrer et à devenir dans le mystère de Dieu.
Alors, il y a une chose extrêmement intéressante, le verset 12 et le verset 13, c'est, je le relis, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais au Père. Parce que je vais au Père vous rendra encore plus aimant, plus... »
Oui, c'est extraordinaire, ça. Mais je crois que Jésus, à plusieurs reprises, annonce le dépassement de lui-même. Sa parole sera dépassée. L'Esprit, quand il reviendra, vous annoncera des choses et vous conduira vers la vérité tout entière. Oui, Jésus, en signant ses propres œuvres, s'efface toujours. Il renvoie au Père qui est plus grand que lui. Il dit que nous sommes appelés à entrer dans l'unité qui est la sienne et à faire des œuvres plus grandes que les siennes, Jésus, au fond, tout en osant s'affirmer avec une exigence extraordinaire, mais il garde une humilité étonnante.
Et en même temps, en filigrane, c'est bel et bien la Trinité qui est là et qui nous fera faire des œuvres plus grandes.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Je vous propose une pause musicale, Père José, et de nouveau le jeune Beethoven, l'opus 18, numéro 3, un quatuor à cordes par le Quartetto Italiano. Sur RCF, dans notre lecture cursive de Saint Jean, nous sommes dans le chapitre 14. Jésus est cerné littéralement par les questions de ses disciples. Et nous venons de voir que Jésus utilise vraiment une technique quasi musicale ici et revient sur toute une série de thèmes. Je vais reprendre ce chapitre 14 à partir du verset 12 et jusqu'au verset 21. « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable d'accueillir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il est en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu et le monde ne me verra plus. Vous, vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Et ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les observe, celui-là m'aime. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et à mon tour, moi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Voilà un passage très riche, Père José. Je reprends ce verset 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, de sorte que le Père soit glorifié dans le Fils. Qu'est-ce à dire ? On a un peu l'impression ici qu'il y a du donnant-donnant et nous ne sommes pas dans une logique évangélique. L'évangile n'est pas dans la logique du donnant-donnant.
C'est-à-dire, ce que Jésus semble demander, c'est que le Père manifeste sa lumière et sa vérité en nous comme en lui. Donc, si vous me demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Ce qui est toujours étonnant, c'est que Jésus, dans les moments intenses de sa parole, s'efface, se retourne toujours vers le Père. Et nous conduit, nous reconduit comme lui vers le Père. Et si vous m'aimez, vous garderez mes commandements et je prierai le Père qui vous donnera un autre défenseur ou réconfort. Le mot paraclet est un peu énigmatique. Je crois que moi je retiendrai le mot réconfort.
Et qui restera avec vous pour toujours.
C'est ça, exactement. Et c'est ici, il le nomme, ce réconfort, ce sera l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Je crois qu'il faut que nous laissions s'ouvrir en nous un certain entendement pour que notre regard découvre des choses nouvelles. Mais nous devons laisser s'écarteler notre entendement pour rejoindre Jésus dans sa montée. Mais vous le connaîtrez parce qu'il demeurera chez vous et qu'il sera en vous. Donc Jésus annonce cette réalité de l'esprit comme quelque chose de très concret. L'esprit n'est pas du tout une abstraction gnostique. L'esprit est un mouvement, il est une vie, il est une progression. L'esprit est éminemment actif.
C'est véritablement élargir, écarteler notre entendement et lui donner une dimension qui en quelque sorte nous déborde.
Nous déborde. Et je crois que quand Jésus dit « Vous ferez des œuvres plus grandes que les miennes », c'est à l'esprit qu'il pense. Et de fait, depuis le départ du Jésus terrestre, au fond, l'esprit a accompli des choses que ce Jésus terrestre était incapable de réaliser. Donc, l'expansion de l'évangile déborde même la parole terrestre de Jésus. Ça me frappe.
Autrement dit, Jésus a besoin de son Église pour continuer cette révélation.
Tout à fait. Et donc, il annonce que l'Esprit qui le continue dépassera sa première parole. Et ça, pour moi, c'est important. Et ça justifie tout le travail des théologiens. C'est là qu'elle trouve sa justification.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans la suite du texte, après cette déclaration qui est un peu solennelle, Jésus revient à de la tendresse, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. » Et puis, cette promesse, oui. Encore un peu, et le monde ne me verra plus, vous me verrez vivant.
Voilà.
Et vous vivrez vous aussi.
Oui, oui,
donc, on annonce ici le retour de la vie, la résurrection.
De la vie et l'expansion de la foi.
De la vie et de l'expansion de la foi. Père José, nous sommes déjà malheureusement à la fin de cet entretien, mais ce n'est pas fini, bien entendu.
Non, mais c'est pas fini.
Chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour la suite de ce commentaire du discours après la scène. Je vous laisse une fois de plus avec Beethoven, l'opus 18, numéro 3, par le Quartetto Italiano. Merci Père José et à bientôt. Thank you.
Thank you.